Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Mercredi dernier à Londres, les députés du Parti conservateur ont renouvelé leur confiance à la Première ministre Theresa May. Principale mission de Theresa May, réussir une sortie en bon ordre du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le Brexit, comme on l'appelle, doit intervenir le 29 mars prochain. Mais la veille de ce vote de confiance, mardi dernier donc, Theresa May a subi un échec. Ce jour-là, la Chambre des communes devait se prononcer sur l'accord de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne et l'affaire a été vite entendue.
Est-ce que cette Chambre veut vraiment réussir le Brexit ?
Convaincue d'aller à l'échec si elle soumettait l'accord conclu avec Bruxelles au vote, Theresa May a donc reporté la procédure, non sans avoir rappelé aux députés britanniques les raisons qui l'a poussée à mener cette bataille du Brexit et ce que cela voulait dire pour elle.
It means working across all areas.
Cela veut dire travailler partout à la construction d'une économie plus forte, en améliorant les services publics, en combattant les injustices pour faire de ce pays un pays qui travaille vraiment pour tout le monde, un pays où personne ne sera abandonné. Et depuis le moment où j'ai pris la responsabilité du gouvernement de ce grand pays, j'ai été constamment déterminée à protéger les emplois, à mettre de la nourriture sur les tables des familles et des travailleurs. Et c'est ce que cet accord concrétise. Il nous donne le contrôle de nos frontières, de notre argent et de nos lois. Il nous assure travail, sécurité et unité du pays. C'est le bon accord pour la Grande-Bretagne. Je suis déterminée à faire tout ce que je peux pour fournir à cette Assemblée les garanties qu'elle requiert et que cet accord puisse être voté pour le peuple britannique.
Au cours de cette émission, nous allons donc évoquer le destin de l'économie britannique à la lumière des incertitudes actuelles. Nous verrons quel aura été l'impact de la présence du Royaume-Uni dans l'Union européenne, à la fois sur l'économie britannique et sur les orientations économiques des 28. Et nous évoquerons plus largement ce qui se serait passé sur le continent européen si la construction européenne n'avait pas existé, ce que les économistes appellent la non-Europe, une bizarre formule que vous nous expliquerez, Vincent. Vincent Vicard, bonjour.
Bonjour.
Vincent Vicard, vous êtes économiste au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Vous y dirigez le programme d'analyse du commerce international, une matière que vous enseignez aussi à l'Université Paris-Dauphine. Vous travaillez également sur les problèmes d'évasion fiscale et l'un de vos derniers textes concerne les pays à taux d'imposition élevés. Avec nous dans ce studio, Catherine Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Catherine Mathieu, vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous êtes l'auteur de nombreux travaux consacrés à l'économie britannique. Vous venez par exemple de publier sur le site de votre institut de l'OFCE un billet de blog consacré à l'accord du 25 novembre entre Bruxelles et Londres. L'économie britannique, qui sera illustrée au cours de cette émission par les reportages réalisés récemment par Anastasia Becchio du service international de RFI. Alors avant d'écouter un premier reportage d'Anastasia Becchio, je voulais vous demander, Catherine Mathieu, aujourd'hui, comment se porte l'économie britannique ?
Alors je dirais aujourd'hui plutôt bien vu la situation effectivement de négociation dans laquelle est le Royaume-Uni maintenant depuis 2 ans avec l'Union européenne. On a une économie britannique qui a certes ralenti, on est sur des taux de croissance du produit intérieur brut de l'ordre de 1,5%, avec un taux de chômage qui reste faible à 4% seulement selon la nomenclature du Bureau international du travail, et puis une inflation qui est revenus autour de 2,4%. Des déficits publics qui ont été aussi fortement réduits, qui ne sont plus que de 1,5% du produit intérieur brut. Et un déficit courant, qui est une des grandes faiblesses de l'économie britannique, qui est en train de se réduire progressivement, même s'il reste quand même relativement élevé pour le moment. Donc une économie britannique qui ne va pas si mal que cela.
C'est une puissance économique, le Royaume-Uni.
Ah oui, c'est la cinquième ou la sixième économie mondiale. Il y a une concurrence chaque année avec la France pour savoir laquelle des deux économies est la plus forte. Et c'est bien sûr une économie qui a un rôle très important, non seulement en termes économiques, mais aussi en termes financiers, avec un rôle très important de la City.
Alors sur le plan non financier, dirais-je, quels sont les points forts de l'économie britannique aujourd'hui ?
Alors les points forts de l'économie britannique, ce sont les services, de façon générale. Et donc on voit, y compris dans la période récente, les services en informatique, les services aux entreprises, de façon générale, sont très dynamiques au Royaume-Uni. Ça, ce sont les points forts.
On dit que l'incertitude est une très mauvaise chose pour l'économie, pour le fonctionnement des économies. Or, le Royaume-Uni nage depuis 2 ans en pleine incertitude. Comment expliquer qu'il surmonte ces incertitudes pour aller bien, comme vous nous le dites ? Est-ce que ça tient au caractère anglais ?
Peut-être, en fait, il va relativement bien. Il faut bien voir quand même que l'économie britannique a ralenti depuis 2 ans. Et en fait, parmi le principal facteur de ralentissement qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est l'investissement des entreprises qui, lui, effectivement, est soumis aux incertitudes qu'il y a sur ces négociations sur le Brexit. Comme aujourd'hui encore, les entreprises ne savent pas quel sera le cadre d'échange avec l'Union européenne quand le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne, s'il sort. Il y a beaucoup d'incertitudes et effectivement on a vu l'investissement des entreprises se stabiliser depuis 2 ans et c'est un des principaux, effectivement une des principales caractérisations de ces incertitudes aujourd'hui.
Vincent Vicard, vous êtes pas un spécialiste de la Grande-Bretagne, mais vous regardez ce pays sous le prisme du commerce. Est-ce que son insertion dans le commerce mondial au cours des 2 dernières années s'est réduite à la lumière de ces incertitudes ?
Alors c'est ce qui est assez étonnant, effectivement. On s'attend à ce que l'augmentation de l'incertitude ait des impacts sur les décisions d'investissement des entreprises. Elle en a eu, mais assez peu, de manière assez modérée. Et c'est plutôt une surprise, je pense, pour les économistes, que les entreprises réagissent si peu. Et de la même manière, les investissements directs étrangers, donc les multinationales qui vont investir au Royaume-Uni, ont assez peu réagi. Le Royaume-Uni reste la première destination d'investissement des multinationales en Europe, un peu moins
lesquelles,
en avance sur les autres.
Lesquelles ?
Lesquelles multinationales ? Alors c'est extrêmement divers, mais par exemple dans l'automobile, on a un certain nombre de BMW qui produisent ces mini là-bas, Toyota, Honda qui produisent au Royaume-Uni. Donc on a beaucoup d'entreprises, le secteur financier aussi qui est extrêmement présent. Et en termes d'insertion internationale, on voit qu'il y a un peu moins d'entreprises britanniques qui exportent, notamment vers l'Union européenne, donc qui anticipent effectivement qu'il va y avoir des barrières et donc elles payent pas le coût d'entrée sur les marchés d'exportation, mais c'est encore assez limité. L'impact est encore assez limité. Parce qu'encore une fois, le Brexit n'a pas eu lieu. Donc les exportateurs britanniques peuvent tout à fait vendre leurs produits dans l'Union européenne comme avant.
Est-ce que pour vous, économiste, cette incertitude, c'est une complication dans le travail quotidien de recueil des données et d'analyse ?
Alors, c'est pas une complication, c'est justement quelque chose qu'on voudrait étudier. Comment ça affecte le comportement des agents ? En général, on s'attend à ce que, en situation d'incertitude, les agents économiques, les entreprises, attendent avant de prendre des décisions qui les impliquent pour le futur. Si elles investissent, ils vont plus pouvoir revenir en arrière, et donc, en situation d'incertitude, ils vont plutôt attendre. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait mesurer, et effectivement, dans le cas du Brexit, c'est justement quelque chose qu'on voit assez peu, et qui est assez étonnant.
Catherine Mathieu ?
Je dirais quand même, effectivement, que ça complique un peu. Hein. Moi qui travaille dans une équipe de prévision, prenons l'exemple de l'investissement. On a l'habitude de modéliser l'investissement en prenant en compte l'évolution anticipée de la demande, d'une part, et l'évolution du profit. Bah, sur l'évolution de la demande, aujourd'hui, comment la prévoir ? On a une demande qui est restée relativement soutenue.
Donc une consommation,
ouais. Une demande intérieure au Royaume-Uni. Et puis, d'une part, on a des enquêtes qui sont réalisées auprès des entreprises britanniques qui n'ont pas montré, qui ne se sont pas dégradées en termes de perspectives d'investissement. Et en même temps, on voit bien qu'on a un investissement qui s'est stabilisé. Alors donc, en fait, on se dit que probablement l'incertitude, c'est ce qu'on n'a pas réussi à mesurer par l'évolution de la demande, par l'évolution du profit, par l'évolution des enquêtes. Il y a quelque chose qui est très dur pour nous, en tout cas, à mesurer et puis à anticiper correctement. Donc en fait, on fait des hypothèses sur ces incertitudes et l'ampleur qu'elles vont prendre, mais on est quand même assez démunis en tant qu'économiste, pour anticiper correctement ces incertitudes et leurs effets, particulièrement dans le cas présent sur l'investissement.
Donc vous viendrez dans un an à ce micro nous dire on s'est trompé ?
Ça n'est pas impossible, mais quand on fait des prévisions, on sait qu'on est toujours prêt à... à expliquer qu'on s'est trompé et pourquoi on s'est trompé, surtout, voilà. Et on sait aujourd'hui, par exemple, dans le cas britannique, que cette question des incertitudes, qui a un rôle fondamental, est encore une fois vraiment difficile à mesurer.
Alors, on va aller sur le terrain, où il y a aussi beaucoup d'incertitudes, en particulier chez les entrepreneurs britanniques de la région de l'Essex, à l'est de Londres, pas très loin du Channel, de la France, donc, et du marché français. Un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Anastasia Becchio.
Installée à une centaine de kilomètres à l'est de Londres, l'entreprise Chemtron fabrique des blindages et des composants électromagnétiques qui sont envoyés dans le monde entier. David Wall est à la tête de cette PME de 50 employés.
Our main markets are, number one is France.
Notre marché numéro un, c'est la France, parce que nous y avons une succursale au sud de Paris. Autre marché important pour nous, la Suède, l'Allemagne, la Turquie. Nous exportons partout dans le monde, en Chine, en Inde, aux États-Unis, mais incontestablement, les États de l'Union européenne constituent notre marché principal. Nous avons des clients en Allemagne qui demandent régulièrement « qu'est-ce qu'on va faire pour assurer la poursuite des approvisionnements ?»
Continuation of supply. Les entrepreneurs britanniques n'ont toujours pas de vision claire de ce que sera la future relation avec l'Union européenne. Pas facile dans ces conditions de garder ses clients.
Si l'on ne parvient pas à conserver une union douanière et que les choses tournent mal, nous utiliserons notre bureau français, qui deviendra notre centre de distribution pour le reste de l'Europe. Mais d'ores et déjà, nous sentons que nous perdons des marchés. Certains de nos clients sont anxieux et sont en train de chercher d'autres sources d'approvisionnement. C'est pas bon.
En attendant d'y voir plus clair, les entrepreneurs de l'Essex travaillent sur plusieurs scénarios du Brexit et n'excluent pas une sortie sans accord.
Dans la même région de l'Essex, Anastasia Becchio a rencontré un hôtelier hostile au Brexit. Son établissement est situé à Southend-on-Sea, une station balnéaire sur l'estuaire de la Tamise. Et à mesure que s'approche la date du 29 mars, l'avenir s'assombrit à ses yeux.
Une belle demeure blanche de style victorien en bordure de mer à une soixantaine de kilomètres à l'est de Londres. C'est là que Gary Lohan et sa compagne ont ouvert un coquet bed and breakfast. Dès le couloir d'entrée, le patron annonce la couleur. Un écriteau bleu sur fond étoilé informe le visiteur que l'établissement a bénéficié de coups de pouce européens.
Mon affaire a reçu le soutien des fonds européens. J'ai reçu par exemple 36 000 livres qui nous ont permis de nous agrandir. Ces financements européens nous ont permis de doubler notre chiffre d'affaires en 6 ans. Nous avons aussi reçu des fonds pour le soutien de projets d'énergie verte. Toutes nos lampes sont des LED et nos radiateurs sont commandés par le Wi-Fi, ce qui permet d'ajuster au mieux. Tout cela, c'est grâce à l'UE et nous en sommes très reconnaissants.
L'accord de Brexit aujourd'hui sur la table entre le Royaume-Uni et l'Union européenne prévoit que les droits des travailleurs étrangers seront préservés, du moins dans un premier temps. Pas de quoi rassurer Gary Lohan.
Tout notre personnel d'entretien est hongrois. Pour l'instant, ils peuvent rester. Mais ça peut changer. Et ce sera un grand problème pour nous. Parce que je ne trouve pas de Britanniques prêts à faire ce travail. En Europe, les compétences dans le domaine de l'hospitalité sont prisées. Alors qu'ici, au Royaume-Uni, ça n'est pas considéré comme un bon travail.
Dans ce contexte, ce que Gary redoute le plus, c'est un no deal, une sortie sans accord de l'Union européenne le 29 mars prochain.
Des reportages signés donc à Anastasia Becchio dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, où nous parlons de la Grande-Bretagne à la veille de sa sortie possible, parce qu'on n'en sait encore trop rien de l'Union européenne, avec deux invités, Catherine Mathieu de l'OFCE et Vincent Vicard, économiste au CEPI, comme Catherine Mathieu, économiste, j'ai oublié de le préciser. Catherine Mathieu, quelles sont les principales clauses économiques de l'accord de Brexit tel qu'il a été signé par les Européens et par Theresa May, la Britannique?
Alors en fait, il y a deux documents. Il y a un grand document de près de 600 pages qui est l'accord de retrait et qui définit ce qui se passera à très court terme quand le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, et donc qui traite principalement des trois points de négociation sur les droits des citoyens, sur la facture, la somme que devra payer le Royaume-Uni pour solde de tout compte en sortant de l'Union européenne, et puis la frontière irlandaise. Ça, c'est l'accord de retrait. Il est accompagné, cet accord de retrait, d'une déclaration politique courte de 6 pages qui fixe les grandes lignes de négociation qui devront être conduites. Enfin, si on se place dans le scénario où le Royaume-Uni sort effectivement le 29 mars prochain de l'Union européenne avec un accord. Donc, cette déclaration politique fixe les grands axes de négociation sur le futur partenariat du Royaume-Uni avec l'Union européenne à plus long terme. Et effectivement, il y a de nombreuses questions qui se posent à long terme. Est-ce que le Royaume-Uni restera dans union douanière? C'est évoqué dans un de vos reportages. Pour les entreprises britanniques qui exportent des marchandises, c'est important que le Royaume-Uni reste dans une forme d'union douanière avec l'Union européenne parce que ça permettrait de continuer à échanger sans barrière douanière et sans barrière réglementaire.
Vincent Vicard, c'est ce qui est prévu pour l'instant. L'union douanière est maintenue.
Alors pour l'instant,
c'est un vestige de l'Union européenne.
C'est une des parties de l'Union européenne. En termes commerciaux, l'Union européenne, c'est et une union douanière et ce qu'on appelle un marché commun. Donc, l'union douanière, ça permet d'enlever les barrières tarifaires, c'est-à-dire les droits de douane entre les pays membres, et aussi d'avoir un tarif extérieur commun, c'est-à-dire la même politique commerciale vis-à-vis de l'ensemble du monde. Ensuite, il y a la deuxième dimension de l'Union européenne, qui est le marché unique, et là, on parle plus de barrières tarifaires, mais on parle de barrières réglementaires. C'est est-ce que les standards ou les normes que vous appliquez à différents pays sont les mêmes. Dans l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance mutuelle des normes. Donc cette reconnaissance mutuelle des normes, ça veut dire que si je vends un produit producteur français en France, je peux le vendre partout dans l'Union européenne. Et ça, c'est particulièrement important parce que vous avez autrement des différences de normes auxquelles vous devez vous adapter. Ça peut être la taille des roues pour l'automobile, pour des sièges bébés par exemple, la taille et les caractéristiques techniques sécuritaires des sièges bébés qui peuvent différer vraiment d'un pays à l'autre. Et donc dans l'Union européenne, on a ce grand marché qui permet de vendre partout de manière beaucoup plus simple. Et donc, ce qu'il y a pour l'instant dans l'accord, c'est il y a d'une part cette période de transition qui pourrait avoir lieu si l'accord est signé, et donc dans lequel on resterait exactement dans la situation antérieure, c'est-à-dire la situation où le Royaume-Uni fait partie du marché unique et de l'union douanière. Et ensuite, ce qui sera négocié, c'est la question qui va se poser dans plusieurs années.
Catherine
Mathieu. Justement, l'accord tel qu'il est, il a été signé par Theresa May et les pays de l'Union européenne à 27 le 25 novembre dernier, il y a le fait que s'il n'y a pas de solution trouvée sur la frontière irlandaise, sur le fait qu'on arrive à ne pas rétablir de frontières dures, parce que comme on le disait à l'instant, le Royaume-Uni étant membre de l'Union européenne, commerce librement avec les autres pays de l'Union européenne, le jour où il sort, en principe, il faut rétablir des frontières, sauf s'il reste dans l'union douanière. Mais étant donné qu'il est très important pour l'Union européenne, comme pour les Britanniques, qu'on ne remette pas de frontières physiques en Irlande, entre l'Irlande du Nord, qui est britannique, et la République d'Irlande, qui est un pays de l'Union européenne.
Qui est indépendant.
Et qui est indépendant.
Parce que ça pourrait remettre en cause les accords de paix signés de longues années déjà.
Exactement, oui, il y a 20 ans, l'accord de Belfast. Et donc, en fait, tout le monde s'accorde à dire qu'il ne faut pas remettre de frontières physiques entre les deux Irlandes. Mais personne n'a trouvé actuellement la façon d'éviter le retour de cette frontière, sauf à dire que l'Irlande du Nord reste dans l'union douanière. Ça, c'était la première proposition de l'Union européenne il y a quelques mois. Ça, c'est une solution qui est inacceptable pour l'ensemble des Britanniques parce que ça voudrait dire qu'on mettrait une frontière, en fait, entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni qui passerait par la mer d'Irlande. Et donc, dans le traité actuel, ce qu'a accepté Theresa May, c'est que le Royaume-Uni reste dans son ensemble, reste dans l'union douanière si on ne trouve pas de solution pour éviter le retour d'une frontière dure en Irlande. Et ça pose un grand problème actuellement dans les négociations et dans les discussions qui sont en cours aussi, et d'abord au Parlement britannique, en disant comment pourrions-nous accepter que le Royaume-Uni reste membre de l'union douanière pour l'éternité avec l'Union européenne en ayant quitté l'Union européenne? Donc tout le sujet actuellement des discussions entre Theresa May et les autres membres de l'Union européenne, c'est d'arriver à limiter cette clause qu'on appelle le backstop, cette clause, et à la limiter sur une durée précise, pour que le Royaume-Uni ne se trouve pas dans la situation de dire, nous sommes dans l'union douanière et nous ne pouvons pas en sortir sans avoir l'accord de l'Union européenne.
Vincent Vicard, si je me réfère à ce que vous me disiez tout à l'heure, à ce que vous nous disiez tout à l'heure, il y a le marché unique et il y a l'union douanière. Si l'union douanière est maintenue mais que la Grande-Bretagne n'est plus dans le marché unique, il y a malgré tout des problèmes de normes, de garanties, de sécurité et autres sur tous les produits qui sont échangés. Comment faire pour que ça ne soit pas contrôlé à une frontière ?
Alors c'est justement toute la question à laquelle on arrive et qui est en fait posée depuis 2 ans et demi et à laquelle les Britanniques s'étaient pas vraiment confrontés. D'ailleurs, ce qui est assez ironique, c'est que cet accord, enfin ce backstop qui inclut tout le Royaume-Uni, initialement c'est plutôt une concession des Européens qui refusaient d'appliquer un backstop à l'ensemble de l'économie britannique et qui voulaient le réserver à l'Irlande du Nord.
Et donc c'est-à-dire qu'ils voulaient maintenir l'Irlande du Nord dans l'union douanière et pas le reste du
exactement,
pays.
Exactement, initialement. Et donc ça se retourne plutôt contre Theresa May et contre l'accord de sortie de manière assez ironique. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que effectivement dans cet accord de backstop, il y a une union douanière qui est prévue pour l'ensemble du Royaume-Uni, mais aussi il y a un statut spécifique qui est prévu pour l'Irlande du Nord qui resterait aligné sur les normes réglementaires européennes, contrairement au reste du Royaume-Uni. Donc ça veut dire qu'effectivement il faut à un moment quelque part des contrôles. Et donc ces contrôles, soit ils se font à la frontière entre les deux Irlandes, soit ils se font dans la mer du Nord. Donc l'union douanière, ça permet d'alléger ces contrôles, qu'il y en ait beaucoup moins et on n'a pas forcément besoin de douaniers pour arrêter tous les camions, etc. Mais il n'empêche qu'il y a un moment, par exemple, si on parle d'agriculture, il faut faire les contrôles vétérinaires. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien faire quelque part. Et donc il n'y a pas vraiment de solution, c'est ce dont on se rend compte. Il n'y a pas vraiment de solution. Soit on est dedans, donc soit on est dans le marché unique, et dans ces cas-là, effectivement, on peut avoir une libre circulation des marchandises, soit on est en dehors du marché unique et il faut un certain nombre de contrôles qui sont plus ou moins légers, mais il n'empêche qu'il faudra un certain nombre de contrôles pour vérifier que les produits respectent bien les normes européennes.
C'est une situation inextricable, Catherine Mathieu ?
Peut-être inextricable, mais pas à cause de la question de l'union douanière, parce qu'un certain nombre de pays aux frontières de l'Union européenne sont déjà dans des situations d'union douanière avec l'Union européenne. La Turquie, par exemple, il y a eu des accords qui ont été conclus avec des pays comme l'Ukraine, qui ne concerne que certaines activités. Donc on sait faire, à l'intérieur de l'Union européenne, des accords d'union douanière avec d'autres pays. La difficulté, dans le cas britannique, c'est que il y a au Royaume-Uni, le Royaume-Uni est aujourd'hui un pays membre de l'Union européenne. C'est la première fois qu'un pays sort de l'Union européenne. Et sur la question des relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, le Royaume-Uni souhaite pouvoir rester dans une situation où il pourra discuter d'une certaine façon à part égale avec les autres pays de l'Union européenne dans l'accord tel qu'il est prévu aujourd'hui. Si le Royaume-Uni reste effectivement dans l'union douanière, parce qu'on n'a pas trouvé de solution pour éviter le retour à une frontière entre les deux Irlandes, le Royaume-Uni devra respecter les réglementations qui sont en place dans l'Union européenne. Il ne pourra pas mettre en place les réglementations qu'il souhaite. Il devra les respecter et il n'aura plus voix au chapitre pour changer ces réglementations. Donc en fait, pour le Royaume-Uni, on se dit que la solution proposée n'a aucun intérêt, c'est-à-dire d'une certaine façon, soit on sort complètement de l'Union européenne et effectivement on met en place des accords de libre-échange avec les autres pays, on discute de façon bilatérale avec les autres pays, on met en place des accords de libre-échange, soit on reste complètement dans l'Union européenne, puisque là la solution proposée est une solution intermédiaire qui en fait ne satisfait personne.
Alors, il y a quelqu'un qui probablement voudrait rester dans l'Union européenne, c'est cet artiste Spector, qui est l'auteur d'un tube qui s'appelle Born in the EU, né dans l'Union européenne. On l'écoute quelques instants. Meet me at the bureau de change, I'm not ready to die, at least not in a country this ugly. Men like us need a grand finale. I saw a picture online of a beautiful market square. I'm done. Everything on earth with you is a sin. C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons du Brexit, des économies britanniques et européennes sous la menace du Brexit. Deux invités, les économistes Catherine Mathieu de l'OFCE et Vincent Vicard du CEPI. Catherine Mathieu, en quoi l'économie britannique a-t-elle bénéficié de son entrée de ce qui s'appelait en 1971, si ma mémoire est bonne, le marché commun ?
Bien justement, elle a bénéficié de cet accès au marché commun. Et ça, c'est la raison pour laquelle les Britanniques ont choisi d'entrer dans ce grand marché, de pouvoir échanger librement avec les autres pays du marché commun, sans barrières douanières, sans barrières
alimentaires. Elle a beaucoup progressé.
Oui, elle a beaucoup progressé, mais après, on peut pas dire qu'elle en ait plus bénéficié que d'autres pays de la future Union européenne, en fait. Hein. C'est vrai que je dirais surtout que le Royaume-Uni, en entrant dans le marché commun, a réussi à imprimer une marque très claire à cette formation du marché commun vers une économie très libérale, vers une économie où on peut échanger en ayant le moins de barrières réglementaires, le moins de barrières, grand marché tarifaire. Et donc, c'est vraiment le Royaume-Uni qui a poussé le plus pour aller vers ce qu'on a appelé ensuite le marché unique européen et aller vers une Europe libérale.
Alors, Vincent Vicard, on va introduire maintenant cette notion qui vous est chère de non-Europe. Qu'est-ce que c'est que cette notion de non-Europe et est-ce qu'elle s'applique au dossier qu'on étudie aujourd'hui, dont on parle aujourd'hui dans cette émission, le Brexit, la sortie du Royaume-Uni? Qu'est-ce qui serait passé si la Grande-Bretagne n'était pas entrée dans le marché commun, etc.
Oui, alors, la question, la notion de non-Europe, ça revient à un rapport justement qui est lié à la mise en place du marché unique, et donc qui a été beaucoup poussé par les Britanniques. Effectivement. Donc la mise en place du marché unique à la fin des années 80 et qui vise à faciliter les quatre libertés, donc liberté de circulation du capital, du travail, des biens et des services. Et donc notamment par cette reconnaissance mutuelle des normes, etc. Et donc la question qui se posait, c'était quel va être l'impact de cette nouvelle phase d'intégration européenne. Et donc il y a eu un rapport fameux, de ce qui s'appelle le rapport Cecchini, qui évaluait les coûts de la non-Europe. Donc le coût de ne pas faire justement cet approfondissement.
Ce rapport, il date de quand ?
Il date de 1988. Donc justement avant, c'était un rapport qui essayait de prédire quels allaient être l'impact. Et donc donc la question qui se pose quand on veut essayer d'étudier quels sont les gains à l'appartenance à l'Union européenne, la question qui se pose c'est quelle serait l'alternative ? Qu'est-ce qu'on peut penser comme contrefactuel ? Et donc quel serait le monde sans cette intégration commerciale, puisque d'abord c'est une intégration commerciale, c'est un projet politique l'Union européenne, mais c'est aussi en premier lieu une intégration commerciale. Et donc qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu ce commerce ? On sait que l'Union européenne, on peut le mesurer, ça on a des données sur très longue période, a augmenté le commerce de manière très importante entre pays membres. En moyenne, ça a doublé le commerce entre pays membres. Donc c'est particulièrement, l'impact sur le commerce est particulièrement important. Par exemple, dans le cas britannique, on peut essayer d'estimer ce qui serait passé si l'économie britannique n'avait pas accédé au marché unique. Et donc, par exemple, aujourd'hui, le commerce du Royaume-Uni se fait pour moitié avec les autres pays de l'Union européenne. Eh bien, ça serait un tiers s'il n'y avait pas cette appartenance au marché unique, ces barrières qui sont moins importantes. Donc ça resterait des partenaires importants, mais beaucoup moins importants qu'ils ne sont aujourd'hui. Donc, et ce commerce dans l'acceptation économique en général et dans les modèles qu'on a, on peut le traduire en gain de bien-être, en gain de PIB. Et donc ça crée plus de commerce, ça permet de spécialiser plus les économies. Donc typiquement dans le cas du Royaume-Uni, c'est plus de finance. La finance est localisée au Royaume-Uni, et elle peut exporter et donc ça donne lieu à des économies d'agglomération. On est plus spécialisé, donc plus efficace, et donc on peut plus produire. Et donc ça, on estime que les gains pour le Royaume-Uni, c'est entre 2 et 3% du PIB. Produit intérieur brut. Donc c'est un gain qui est substantiel.
Mais c'est un gain sur la durée, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui.
Exactement, mais c'est un gain en niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'exercice intellectuel qu'on peut faire, c'est aujourd'hui, le PIB britannique est 3% plus élevé qu'il n'aurait été si il n'y avait pas eu cette intégration commerciale au niveau de l'Union européenne.
C'est pas très considérable.
Ça représente 2000 livres par ménage et par an. C'est relativement important. Après, effectivement, il y a beaucoup de choses qui déterminent le niveau de vie des populations et l'Union européenne n'est clairement pas le seul déterminant du niveau de vie des populations.
Vous en pensez quoi, Catherine Mathieu, de ces gains?
Ben, je pense que ça n'est pas considérable, effectivement, hein, mais c'est tout de même, c'est difficile d'essayer, effectivement, de construire un contrefactuel pour dire, bon, que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu la construction de l'Union européenne? Effectivement, les études que vous mentionnez donnent des effets, moi, qui me semblent relativement faibles. Peut-être, ce sont des effets réalistes, mais l'impact que vous donnez pour le Royaume-Uni, en fait, est du même ordre pour la France, pour l'Allemagne et pour les autres économies. C'est-à-dire qu'en fait, ces études aboutissent à dire que la libéralisation des échanges a permis d'augmenter la croissance. Mais dans le cas aujourd'hui dont on parle, pas plus pour le Royaume-Uni que pour d'autres pays de l'Union européenne. Et aujourd'hui, dans toutes les discussions qu'on a à l'échelle mondiale sur la remise en place de barrières douanières avec les mesures prises par les États-Unis, par exemple, vis-à-vis de la Chine, c'est aussi ce genre d'analyse qui est produit et qui dit, effectivement, si on met en place des barrières douanières au commerce, on va avoir un effet négatif sur la croissance. Mais pas d'effet spécifique, je dirais, sur le Royaume-Uni. Et par contre, pour le Royaume-Uni, en fait, je pense qu'il est important de rappeler quand même que le Royaume-Uni est vraiment entré dans ce marché unique, justement sur cet aspect accès à une grande zone de commerce, des échanges libres, mais n'a pas souhaité aller vers une intégration politique. Et la dimension politique de l'Union européenne a pris de plus en plus d'importance au cours du temps. Quand on a mis en place la monnaie commune, l'euro, le Royaume-Uni a dit « nous ne souhaitons pas entrer dans cette zone avec une monnaie commune, nous gardons notre monnaie, la livre ». Et à chaque étape politique de la construction européenne, le Royaume-Uni est resté en retrait. Et c'est une des raisons pour lesquelles il se trouve le pays à dire « nous souhaitons sortir de l'Union européenne », c'est qu'en fait, le Royaume-Uni est resté sur, enfin de façon générale, une grande partie des Britanniques, sur une vision de l'Union européenne qui est un grand marché, mais pas plus que ça.
Vincent Vicard.
Ah, c'est initialement dans la position du Royaume-Uni qui poussait plutôt pour une zone de libre-échange plutôt qu'une union douanière dans la construction initiale de l'intégration européenne. Il y avait justement ce refus d'une intégration politique de la supranationalité, parce qu'une union douanière, vous avez des droits de douane extérieurs communs, donc vous avez une politique commerciale commune, donc ça implique de mettre en commun un certain nombre de politiques économiques. Donc on avait déjà un degré une dimension politique dès l'origine de l'Union européenne. Et donc on retrouve d'ailleurs, à l'époque, le Royaume-Uni était réticent aussi à rentrer dans cette union douanière parce qu'il voulait conserver cette politique commerciale indépendante, notamment pour pouvoir avoir des accords préférentiels avec les pays du Commonwealth. Donc on retrouve déjà, initialement, dans l'histoire de l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne, les questionnements qu'on a aujourd'hui, et qui est effectivement la question de reprendre la souveraineté sur la politique commerciale. C'est une des vraies questions qui est importante dans le débat au Royaume-Uni.
Catherine Mathieu.
Mais c'est un élément, effectivement, mais l'élément le plus important qui a fait voter une majorité de Britanniques en juin 2016 pour sortir de l'Union européenne, c'est pas l'aspect commercial, c'est principalement la question de la migration. En fait, le Royaume-Uni s'est trouvé, d'une certaine façon, pris à son propre piège d'être un État très ouvert, à la fois en termes commerciaux, mais aussi, bien sûr, en termes de circulation du capital et des flux de main-d'œuvre. Et en 2004, quand il y a eu l'arrivée de nouveaux pays membres d'Europe centrale et orientale dans l'Union européenne, le Royaume-Uni a été l'un des seuls pays de l'Union européenne avec l'Irlande et la Suède à ne pas fermer ses frontières à l'arrivée de ces nouveaux travailleurs. Et effectivement, à ce moment-là, le Royaume-Uni avait d'ailleurs besoin, était dans une phase de croissance soutenue, avait déjà un taux de chômage relativement faible, avait besoin de main-d'œuvre, acceptait volontiers la venue de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée des pays d'Europe centrale et orientale. Mais finalement, alors que la France, l'Allemagne et les autres pays ont mis des restrictions à l'arrivée de la main-d'œuvre, donc n'ont pas respecté la fameuse liberté de circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne, le Royaume-Uni l'a accepté et il y a eu une arrivée assez rapide de travailleurs de ces pays qui a fini par cristalliser une partie des questionnements au Royaume-Uni sur le fait d'être dans l'Union européenne et de dans tout cet argument pouvoir reprendre le contrôle est venue cette question de l'immigration de façon tout à fait paradoxale, je dirais, pour le Royaume-Uni qui a toujours été prêt à accueillir des travailleurs sur son sol.
Alors, on l'entendait tout à l'heure dans un reportage d'Anastasia Becchio, on va retrouver un autre reportage d'Anastasia Becchio. La difficulté aussi pour les Britanniques, c'est qu'aujourd'hui, ils sont très dépendants de l'Europe, en particulier pour leurs importations alimentaires. 40% de l'alimentation britannique vient d'Europe. Aujourd'hui, plus que jamais, les acteurs économiques redoutent donc des difficultés d'approvisionnement après le 29 mars, date fatidique du Brexit. Écoutez ce reportage signé Anastasia Becchio à Londres.
Des étagères à moitié vides, des cajots où un poivron fripé et un oignon se battent en duel, des étiquettes avec des prix revus à la hausse. Une fausse épicerie s'est installée provisoirement dans un quartier branché du sud de Londres. Elle n'est pas tenue par des commerçants, mais par des militants anti-Brexit. Le risque de pénurie sera réel si les camions se retrouvent bloqués par des contrôles douaniers, explique David Hamm.
Prenez la frontière suisse, les camions doivent s'arrêter, ça ne dure que quelques minutes, mais on a des données qui disent qu'un retard de 2 minutes par camion à Douvres aboutit à une file d'attente de 40 km. Le Royaume-Uni est très dépendant du couloir Douvres-Calais. Et pourquoi? On le sait très bien, à cause du mauvais temps. Il arrive que la Manche soit fermée à cause d'une grosse tempête et dans ces cas, il ne reste plus qu'à fermer les autoroutes M2 et M20 pour les remplir de camions. Le Brexit, c'est comme avoir une tempête tous les jours de la semaine.
Expert en politique alimentaire, le professeur Tim Lang de l'Université de Londres a publié une série de rapports alertant sur les risques d'un Brexit dur pour l'approvisionnement, la qualité et la sécurité alimentaire. Semblant prendre peu à peu conscience des enjeux, le gouvernement a nommé un sous-secrétaire chargé des approvisionnements, un poste inexistant depuis l'après-guerre. Dans l'industrie, les annonces de stockage se multiplient, mais le pays n'a pas de capacité en la matière, explique le professeur Tim Lang.
Nous n'avons pas d'entrepôt parce que ces 40 dernières années, nous avions un marché unique en Europe et la nourriture récoltée dans le sud de l'Europe pouvait arriver dans les supermarchés britanniques 3 jours plus tard. Il n'y a pas d'attente aux frontières, la marchandise passe 3-4 pays sans s'arrêter et donc on n'a pas besoin d'espace de stockage. Le stockage, c'est dans les camions sur l'autoroute.
Le Royaume-Uni est très dépendant de l'étranger pour les denrées périssables. C'est justement ces produits que distribue l'entreprise Chef Choice à une quarantaine de kilomètres à l'est de Londres. De son entrepôt de Leyndon partent chaque nuit des kilos de fruits, légumes, crèmes et autres yaourts vers une soixantaine de restaurateurs de la région. À la tête de l'entreprise, Kirsty Powell.
Nous travaillons avec les hôtels, les restaurants, les cafés, avec les écoles, les universités. Ils nous passent commande pour leurs produits frais, les fruits, les légumes. Si au final, on sort de l'UE sans accord, l'approvisionnement sera réduit, mais la qualité des produits aussi sera moindre et les prix vont grimper. Ça ne fait pas vraiment une bonne combinaison tout ça. On est coincé. Un no deal, ce serait un gros problème. Nous, ça nous affecterait vraiment. Ça frapperait toute l'industrie alimentaire.
Dans la chambre froide, salade d'Italie, herbes aromatiques d'Espagne, framboises de France, environ la moitié de la marchandise provient de l'étranger. Des produits qui ne supporteraient pas de rester coincés plusieurs jours dans des camions.
Regardez ce sachet de laitue. Cette laitue est généralement réfrigérée à une température comprise entre 2 et 5 degrés. Même si elle est dans un camion frigorifique, si ce camion doit patienter sur le bord de la route pendant longtemps, la température commence à changer, il va y avoir de la condensation dans le sachet et à la fin, cela aura un impact sur la qualité des feuilles. Et puis un contrôleur qualité viendra et dira « Cette salade ne peut pas être vendue. Nous avons beaucoup de produits importés et si nous n'avons pas d'accord de sortie, nous aurons des problèmes. »
Selon le principal syndicat du commerce du Royaume-Uni, chaque jour, 50 000 tonnes de nourriture traversent la frontière franco-britannique vers le nord.
Un reportage signé Anastasia Becchio. Alors, l'Angleterre affamée, la Grande-Bretagne affamée, c'est plausible ou c'est des militants qui cherchent à faire peur aux électeurs britanniques s'ils étaient amenés à revoter, Catherine Mathieu ?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est simple, en fait. Hein. Le Royaume-Uni, faisant partie de l'Union européenne, peut tout à fait importer des marchandises du reste de l'Europe. Et donc, effectivement, comme le Royaume-Uni est un importateur important en produits alimentaires, s'il n'y a pas d'accord le 29 mars, se posera la question qui a été mentionnée dans votre reportage, des files d'attente qui pourraient se produire. Il faut voir en plus la particularité géographique du Royaume-Uni qui est insulaire. Donc effectivement, pour faire venir les marchandises d'Europe continentale, il faut prendre ou bien un bateau ou bien emprunter le tunnel sous la Manche. Donc effectivement, ça compliquerait, ça ralentirait les échanges. Mais je ne pense pas que le Royaume-Uni serait affamé. Ce serait un petit peu plus difficile, certes, c'est sûr, même nettement plus difficile à organiser à court terme. Et puis à moyen terme, eh bien, les agriculteurs britanniques pourraient, eux, se dire que ce serait plutôt une bonne nouvelle pour eux, parce que leur production, qui actuellement est souvent plus chère et moins variée, bien sûr, que tous les produits qui peuvent venir, en particulier du sud de l'Europe, qu'on ne peut pas faire pousser au Royaume-Uni, les agriculteurs britanniques quand même verraient un avantage, eux, à avoir une production qui redeviendrait plus compétitive.
Vincent Vicard, 2 minutes d'attente aux douanes, ça fait une file d'attente de camions de 40 km, disait Anastasia Becchio, citant des études. Vous êtes l'un des auteurs de ces études, vous partagez ce point de vue ?
Alors, je suis pas du tout un des auteurs de cette étude, c'est des économistes de l'Imperial College de Londres qui ont fait ce calcul en calculant tout simplement qu'aujourd'hui, on contrôle très peu de camions, puisque justement, il y a cette libre circulation, et que là, il suffirait de 3 minutes, de 2 ou 3 minutes de contrôle par camion pour créer ces files. Mais ça, c'est effectivement une question de court terme, parce que là, c'est lié aux infrastructures qui sont mises en place. Effectivement, s'il y a pas d'accord fin mars, on n'aura pas le temps sûrement d'engager des douaniers, de mettre en place les infrastructures, de créer des voies pour pouvoir accueillir les camions, etc., des parkings, etc. Donc ça, c'est une question de court terme. Il y a sûrement beaucoup de moyens, de la coopération qui aura sûrement des deux côtés, aussi du côté européen, pour essayer d'alléger au moins dans le court terme les contrôles, etc., de façon en tout cas à éviter un blocage trop important. Et ensuite, il y a la question à plus long terme. À plus long terme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, s'il n'y a pas d'accord, on revient aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Ça veut dire des droits de douane qui peuvent être particulièrement importants pour un certain nombre de produits. Et là, on parlait des produits alimentaires. Si vous prenez, par exemple, les produits laitiers, les droits de douane moyens mis en place par l'Union européenne vis-à-vis de ses partenaires hors Union européenne, c'est 41%. 41% de droits de douane, c'est particulièrement important. Et vous rajoutez à ça aussi les barrières réglementaires, puisque c'est coûteux, ces barrières réglementaires, et elles peuvent représenter largement l'équivalent des droits de douane, voire plus pour certains produits, particulièrement les produits agroalimentaires.
Mais ça, 41% sur les produits laitiers, c'est les produits laitiers qui entrent dans l'Union européenne.
Exactement.
Est-ce que la Grande-Bretagne pourrait exporter ses produits vers l'Union européenne ?
C'est la question qui se pose. Elle devrait payer effectivement des droits de douane de 41% et aussi prouver qu'elle respecte les normes sanitaires européennes, ce qui est aussi extrêmement coûteux. Et dans l'autre sens, les exportateurs européens devraient aussi payer ces mêmes droits de douane, en tout cas les droits de douane qui seraient fixés par le Royaume-Uni, et on imagine qu'à court terme, en tout cas, le Royaume-Uni appliquerait les mêmes droits de douane que ceux de l'Union européenne. Donc ça pose la question. Ensuite, les importations alimentaires vont devenir plus coûteuses pour les Britanniques, et donc ça va être bénéfique, effectivement, pour les producteurs locaux. Et c'est un peu ce qu'on va avoir, dans, quel que soit le scénario, mais de manière plus ou moins prononcée. C'est-à-dire que ça va être plus difficile pour les exportateurs d'exporter vers le marché européen, et les exportateurs vont avoir tendance à rétrécir, notamment, on peut penser au secteur financier, la City de Londres. Mais par contre, ça va être bénéfique à certains autres secteurs qui vont, eux, se retrouver protégés de la concurrence internationale, et donc pouvoir plus vendre. Et on peut penser, effectivement, à une partie du secteur manufacturier, l'agriculture, qui vont, a priori, dans le long terme, pouvoir bénéficier, en tout cas, grossir et pour pouvoir servir la demande domestique.
Alors, Vincent Vicard mentionnait à l'instant le secteur financier, qui est l'un des bastions britanniques. Le Brexit, quel impact sur ce secteur clé de l'économie britannique, Catherine Mathieu ? Est-ce qu'on le sait ? Parce qu'on nous annonce tous les jours des bureaux qui vont ouvrir à Paris, à Francfort, de grandes banques britanniques ou américaines. Est-ce qu'on a une idée ?
Non, alors actuellement, on ne le sait pas parce que aujourd'hui, le Royaume-Uni est toujours membre de l'Union européenne, donc les services financiers peuvent être exportés du Royaume-Uni vers l'Union européenne tout à fait librement. On ne sait pas quelles seront les conditions d'échanges de services financiers entre le Royaume-Uni et l'Union européenne une fois que le Royaume-Uni sera sorti. L'Union européenne n'a pas souhaité discuter de ce point avec le Royaume-Uni jusqu'à présent et ça ferait partie des discussions qui démarreraient officiellement à partir de mars 2019. Donc sachant qu'aujourd'hui, en étant membre de l'Union européenne, les services financiers britanniques bénéficient de ce qu'on appelle le passeport européen, donc qui en fait qui sont de nombreux passeports qui permettent d'accéder au marché financier européen, que c'est là le point fort de l'économie britannique aujourd'hui, c'est là le principal excédent extérieur britannique, que l'Union européenne en a bien conscience, et que certains pays donc ne souhaitent pas faciliter les discussions avec le Royaume-Uni, et que certains pays, en particulier dans la zone euro, notamment la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, mais aussi l'Irlande, aimeraient bien pouvoir récupérer une des activités lucratives qui sont actuellement menées à la City. Donc en fait, l'enjeu des négociations, ce sera pour le Royaume-Uni d'obtenir le droit de continuer à exporter ses services financiers vers la zone euro, alors qu'à l'intérieur de la zone euro, on fera tout pour éviter que ça soit possible ou pour compliquer la vie des institutions financières britanniques. Et c'est pour cela qu'effectivement, déjà, les institutions financières britanniques ont installé des filiales dans certains pays ou avaient déjà, pour des raisons historiques, comme HSBC, des agences à Paris, pour d'autres banques, des agences en Allemagne, en se disant que ben voilà, elle bénéficierait de ce passeport, du maintien de ce passeport, quoi qu'il arrive, en ayant des établissements à l'intérieur de la zone euro, et puis ensuite pourrait continuer à mener l'essentiel de leurs activités à la City.
Vincent Vicard, pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, on le comprend. Il y a quelques indices, malgré tout.
On sait, par exemple, pour le passeport européen, c'est assez clair que le secteur financier britannique ne bénéficiera plus du passeport européen. Ça a été plus ou moins annoncé. À moins retournement de situation, ça paraît relativement clair. Et donc, il y a un certain nombre, pas toutes, hein, mais un certain nombre d'activités qui vont devoir être relocalisées sur le territoire européen pour vraiment des questions de supervision. La question, c'est qui est le superviseur? Qui peut contrôler l'activité des banques? Qui peut contrôler l'activité des intermédiaires? Par exemple, les activités de clearing qui sont particulièrement importantes entre deux acteurs sur le marché. Et donc ça, c'est vraiment... Il n'y a pas vraiment de solution. Si on veut que le superviseur soit la BCE, par exemple, ou d'autres agences européennes, il faut que ce soit sur le marché européen.
Catherine Mathieu, ça sera la dernière question de cette émission. Si, par exemple, par miracle, la Grande-Bretagne décidait de rester après un second référendum dans l'Union européenne, est-ce que les choses reprendraient leur cours normal, comme si rien ne s'était passé?
Très probablement. Je pense que... Du côté de l'Union européenne, on ne souhaite pas de toute façon que le Royaume-Uni sorte. Ça, les pays ne cessent de dire au Royaume-Uni, si vous souhaitez revenir, du moins si vous souhaitez ne pas sortir, on sera ravis que vous preniez cette décision. Du point de vue britannique, il y aurait tout intérêt sur le plan économique à ce que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Le problème, je pense, qui resterait latent, serait cette question de la liberté de circulation des travailleurs, qui est l'objet de beaucoup de débats au Royaume-Uni.
Cette émission est maintenant terminée. Elle était réalisée et mise en onde par Stephen Elsley. Merci à vous deux, Catherine Mathieu, Vincent Vicard, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Cette émission sera dans quelques minutes en ligne sur le site internet www.rfi.fr où vous pourrez la réécouter. Elle est aussi accessible via l'application Pure Radio de votre smartphone à l'onglet émission. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.